Voilà, bonjour à chacune et chacun. C'est super de se retrouver pour plein de choses en même temps, comme ça a été dit par Mathieu. On cumule, voilà. Donc c'est aussi, bien sûr, alors pour certains d'abord, la fête un peu de fin, enfin de fin jusqu'à la suite, mais dans notre parcours Alpha, on va rester dans, j'allais dire, les traditions du parcours avec la petite présentation. Hein, voilà, donc ça c'est tous les thèmes qu'on a vus, le sens de la vie, qui est Jésus, pourquoi Jésus devait-il mourir, la foi, la prière, la Bible, qui est l'Esprit, quelle est son œuvre, comment être rempli de l'Esprit, comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie, et puis comment Dieu nous guide-t-il, comment résister au mal, en parler aux autres, pourquoi, comment, et l'Église, qu'en est-il? Ça c'était la dernière fois qu'on s'est vus. Et donc, voilà, on arrive à notre fête de fin de parcours, mais une fin, c'est toujours le début d'autre chose. Et pour rester dans nos traditions aussi, j'ai découvert entre-temps, ça servira de générique pour le prochain parcours Alpha, hein, toujours se poser des questions. Et là, donc, c'est un morceau que j'ai trouvé très intéressant. C'est un dernier album de Linda Lemay, je n'avais pas fait attention quand je l'avais écouté. La grande question. Alors vous allez voir, il est un petit peu long, il y a beaucoup de textes, mais elle pose beaucoup de questions et j'ai trouvé que ça allait vraiment dans l'idée du parcours. Alors on va l'écouter ensemble. Peut-être si vous êtes choqué qu'on puisse utiliser des gens qui ne sont pas forcément croyants pour partager notre foi, alors relisez la Bible et voyez que Paul le faisait tout le temps. On va voir plus tard comment il utilisait des poètes grecs qui parlaient de conflits entre les dieux, entre Saturne, Jupiter, etc. Puis prenait les phrases, il les sortait complètement de leur contexte d'ailleurs, et il s'en servait pour annoncer son message. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Mais un parcours et pas un cours, c'est avant tout un voyage. Donc on a fait ce voyage ensemble. Puis ceux qui n'ont pas fait le parcours, ben, ils sont dans un autre voyage, mais on voyage ensemble ce matin aussi, hein. Et un voyage, c'est un déplacement d'un point dans le temps et l'espace à un autre, hein. Voilà, un petit voyage comme ça. Ça a été un voyage en amitié. On a appris à se connaître, à se rencontrer d'abord, à se connaître, à s'apprécier en parlant, en échangeant dans ces petits moments où ben, on était en confiance, on savait qu'on pouvait dire ce qu'on voulait, on ne serait pas brûlé à la sortie ou lapidé. C'était, je pense aussi pour chacun d'entre nous, pour moi en tout cas, mais on ne va pas être le seul, un voyage avec soi-même, on est toujours en train de cheminer. C'était un voyage dans les pensées de Dieu aussi, on a essayé de les parcourir un petit peu, incomplètement, imparfaitement bien sûr, on a l'éternité pour ça. C'était avant tout un voyage pour découvrir ou mieux connaître le Christ. On arrive aujourd'hui au texte que j'aimerais qu'on voit ensemble. Donc le contexte, Paul, celui qu'on appelle l'apôtre Paul, Monsieur Paul, Polo, comme vous voulez, est en voyage, il est à Athènes, il attend ses collaborateurs, et comme il a perdu son attel pendant le voyage, il n'a plus les réseaux sociaux pour contacter Timothée, et il doit attendre quelques mois qu'il le rejoigne, c'était une autre époque, hein, sans savoir vraiment par quel bateau il va arriver ou par... Et puis, il se promène dans cette ville qui est une ville extrêmement religieuse, Athènes, avec des temples, des statues, des hôtels partout. Et il tombe un moment sur un hôtel qui est inscrit à un dieu inconnu. Les Athéniens étaient tellement, nous on dirait aujourd'hui, superstitieux, ils devaient dire croyants, hein, qu'ils avaient des temples pour tous les dieux possibles et imaginables. Ils avaient peur d'avoir oublié un des dieux et que ce dieu-là leur fasse tomber le ciel sur la tête. Ça, c'était le dieu des Gaulois. Hein, mais... Alors, ils se sont dit, on va prendre une précaution maximum, les ceintures et les bretelles. Ils ont construit un dieu, et puis dessus, ils ont écrit à un dieu inconnu. Hein. Comme ça, s'il y en a un qu'on a oublié dans notre panthéon, au moins celui-là, on va l'apaiser comme ça. Et Paul passe là, et il voit toutes ces choses-là, et en plus, il sait à quelle occasion cet hôtel a été dressé. Hein. C'est parce qu'il y a eu une peste ou une maladie qui est arrivée sur la ville longtemps avant. Et puis, bah, ils ont essayé d'offrir des sacrifices à tous les dieux, puis ça ne marchait pas. Et puis, un de leurs prophètes leur a dit, mais vous avez offensé un dieu inconnu. Et puis, donc, ils ont fait cet autel à ce dieu inconnu. Et puis, ben, d'après l'histoire, voilà, non, c'est pas une histoire qu'on tient dans la Bible, mais on le sait par les historiens, ben, la peste serait arrêtée. Donc, il y avait cet autel à ce Dieu inconnu. Et Paul passe là, et en aparté, il nous dit dans ses écrits qu'il était irrité par toutes ces idoles, ces statues, ces temples, tout ça. Mais en même temps, il va s'en servir. Et lorsqu'il a l'occasion d'aller, ben, les Grecs aimaient les discours et les discoureurs, hein, c'était un métier chez eux. Je suis pas né à la bonne époque, tant pis, mais j'ai trouvé presque équivalent, ça va. Ça, la politique. Hein. Et puis, il y avait un endroit où les gens pouvaient parler, il y avait des gens qui venaient pour les écouter. Vous imaginez ça? Ils s'asseyaient et ils écoutaient, puisqu'il y avait des philosophes et ils s'exprimaient. Alors, Paul arrive là, et puis il faut qu'il parle à cette foule qui est là et qui sont pas du tout des gens d'origine juive, qui connaissent pas l'Ancien Testament, ils savent pas qui est Abraham, David, la Genèse, la Torah. C'est les Grecs, avec tout leur panthéon de dieux. Hein. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va leur parler et qu'il leur dit ceci. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. C'est gonflé quand même. Hein. Il parle à des gens qui sont panthéistes et qui ont 300 000 dieux plus encore. Et puis il leur dit, ben en fait, celui que... Ben c'est de celui-là que je vous parle. Hein. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit qui lui donne à tous la vie. Non, que ce soit lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre. Et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. D'autres traductions disent nous sommes aussi ses enfants, mais de la même race que lui. Hein. Et en fait, là, ces deux phrases-là, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, enfin, c'est plusieurs phrases. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, et nous sommes aussi de sa race. Il mélange allègrement deux poètes grecs, Épiménide et Aristus, et puis qui ont dit ces choses-là, et puis il les met ensemble pour faire son message à lui, hein, sans aucune difficulté. Et il leur dit, voilà, hein, il leur dit pas plus que ça, je vais m'arrêter ici. J'aimerais, moi, m'arrêter justement sur ces mots que Paul a repris, hein, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. C'est une chose qu'on s'est aperçue dans ces parcours alpha, et je trouve que c'est très intéressant aussi pour les gens qui sont croyants, j'allais dire, depuis tout petit, qui sont grandis, selon l'expression consacrée, entre deux pages d'une Bible, de s'apercevoir que des gens peuvent découvrir Dieu autrement, différemment, pas par le même cheminement que nous. Des gens qui n'ont pas fait l'école du dimanche, à qui on n'a pas demandé un jour de lever la main à la fin d'un message ou quelque chose comme ça, et qui, dans leur recherche, ben, arrivent aussi, même Dieu, hein, bien sûr, par un chemin différent, parce qu'en fait, il n'est pas loin. Hein. Lorsque Jésus parle avec ses disciples, et puis que les gens religieux de l'époque disent, oui, mais bon, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, il est où ce royaume dont tu nous parles? C'est qui le roi et comment ça se passe? Et leur dit, ce royaume ne vient pas de manière à frapper les regards, ce royaume est au-dedans de vous. Donc quand il dit, il n'est pas loin de chacun de nous, ben, c'est même très près. Il peut être en chacun de nous. Il n'y est pas déjà, hein, mais il y a la porte d'accès en chacun d'entre nous pour le rencontrer. Et il continue donc en citant cet autre poète, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et j'aimerais m'arrêter là-dessus un petit peu ce matin. En lui, nous avons la vie. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que c'est un sujet sur lequel j'aime beaucoup revenir. La vie, cette fameuse vie éternelle qu'on a résumée à ne pas griller sur une rôtissoire quand on sera mort. C'est cool. Non, parce que c'est vrai que l'idée de passer un temps infini sur une rôtissoire, c'est pas agréable. Hein. Mais c'est triste parce que du coup, ça veut dire que ben pour cette vie, à part des embêtements parce qu'on est chrétien, des persécutions, et puis les gens vont se moquer de nous, ben on doit renoncer à tout ce qui est agréable, et puis se taper la vie en souffrant. Mais ce n'est pas grave, parce que quand on sera mort, on n'ira pas sur la rôtissoire. Ce n'est pas de ça que Jésus parlait. Si je n'ai pas trouvé la vie éternelle pour la vivre quand je suis en vie, j'allais dire ici aujourd'hui, elle me servira à quoi après cette vie? Je ne la reconnaîtrai même pas. La vie éternelle, ce n'est pas juste une vie sans fin, parce que l'enfer aussi, c'est une vie éternelle, et puis l'éternité, ça dure longtemps. Mais la vie éternelle dont nous parle Dieu, c'est une qualité de vie. Et c'est une qualité de vie que nous sommes appelés à découvrir, bien sûr, pas pleinement, mais à expérimenter et à vivre maintenant. Lorsque Jésus dit « Si vous venez à moi, des fleuves d'eau vive couleront de vous, de votre être intérieur », il ne parlait pas pour après cette vie. Hein. Ça sera vrai aussi après, mais on ne sait pas comment ça sera après. Ça sera encore mieux, ça sera bien. Et pour le moment, on est en vie, si on est là, on est sur terre, on a encore notre vie pour certains, beaucoup pour d'autres, un petit bout, ou peu importe, on ne sait pas, à vivre. Hein. Et Christ est venu pour que nous vivions de cette vie, de cette qualité de vie qu'on appelle éternelle, mais c'est juste un des qualificatifs, et qu'on la vive vraiment. On a parlé dernièrement, quand Virginia présidait, hein, de la différence entre vivre et exister. Y a beaucoup de choses vivantes qui sont là, les plantes, les animaux, etc. Ils sont là, ils sont vivants, ils existent. Et puis, beaucoup d'êtres humains sont à peu près au même niveau. Moi, je dis comme les concombres de mer qui sont à la fois un mollusque et un légume. Ils sont vivants. On travaille pour manger, on mange pour travailler. Alors oui, bien sûr, on inclut là-dedans, on va au culte le dimanche ou le mercredi ou le jeudi, on fait nos petites activités. Mais ce n'est pas ça la vie éternelle. Cette vie, c'est cette qualité de vie où on est conscient que Dieu est là, que je suis en communion avec lui, même si je ne comprends pas tout ce que ça veut dire. Hein. Et puis, je suis conscient de vivre ce moment-là avec lui. Et d'ailleurs, que font les êtres humains? Les êtres humains, j'allais dire normaux, tout le monde. Hein, si ce n'est essayer de ressentir qu'ils sont en vie ou essayer d'oublier qu'ils ne sont pas en vie. Je parle des vivants. Hein. C'est les seules deux activités des êtres humains. Ce que les gens appellent faire la fête ou s'amuser, c'est quoi? C'est oublier le fait que je ne me sens pas vivant par l'étourdissement, quel qu'il soit, hein, ou par le travail pour d'autres. Ben, oublier. Ou alors faire des choses tellement intenses que je me sens vivre. J'ai entendu plusieurs fois des reportages sur des gens qui pratiquent des sports extrêmes où chaque fois qu'ils pratiquent leur activité, ils sont en danger de mort réellement. Hein. Ah, tu ne connais pas ce genre de choses. Je n'ai jamais fait ce genre de choses. C'est interdit quand on est marié. Et puis, c'était des Français, ben voilà, parce que le reportage était français, et ces gens-là disaient, qui n'étaient sûrement pas des croyants non plus apparemment, mais ils disaient, ben en fait, on fait ça parce que c'est que dans ces moments où on risque notre vie qu'on se sent vivant. Ouais, bon, ok. Mais en fait, c'est juste pousser un peu plus loin, mais c'est la même chose. Hein. Soit on veut oublier qu'on ne sait pas pourquoi on existe, soit on veut tellement le sentir qu'on se met en danger, mais Christ nous propose un autre chemin. Dans ce texte, un des plus connus de la Bible, en tout cas par les chrétiens qui la lisent, hein, Jean 3, 16 et 17, lorsque ce monsieur religieux vient voir le Christ et lui dit, en fait, comment il faut faire pour suivre ton chemin? Et là, il y a ce fameux verset qu'on sait tous par cœur, tellement par cœur qu'on ne le comprend plus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis, nous, on a traduit ça. Ben, en fait, les gens ne croient pas que Jésus existe et qu'il est le Fils de Dieu. Il faut qu'ils croient que Jésus existe et qu'il est le Fils de Dieu. Et ping, ils reçoivent le ticket. Et le jour où ils meurent, ils vont pas sur la rôtissoire. C'est pas de ça que Jésus leur parle. Ça, c'est une des conséquences. Mais j'allais dire, c'est presque un détail pour nous, les vivants. Afin que ceux qui croient que Jésus est qui il est, c'est-à-dire il faut savoir qui il est, c'est pas juste croire qu'il a existé, qu'il est Dieu, qu'il est mort et ressuscité. Évidemment, c'est le minimum. C'est comme si on disait, pour apprécier un livre, il faut savoir lire. Alors, à partir du moment où je sais lire, je pense que j'ai lu. Non, j'ai appris à lire, ben, c'est évident, sinon je ne peux pas lire. Mais après, quand je lis un livre, j'ai oublié que le travail que j'ai fait pour apprendre la lecture. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est contenu dans le livre. Croire en Jésus, évidemment que c'est savoir qu'il a existé et historiquement et réellement qu'il est qui il est, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, ce qu'il a fait, ce que ça signifie pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Mais ça, c'est l'équivalent d'apprendre à lire. Après, il faut lire. connaître qui il est. Et c'est ça la vie éternelle. Et donc la vie, c'est pas juste le fait de ne pas exister, c'est le fait de vivre dans cette conscience que Dieu est là avec moi, qu'il est en moi, il est plus que tout près de moi, il est en moi, hein. Christ en nous, l'apôtre Paul dit. Et dans les moments où je peux vivre ma vie normale, avec cette conscience-là, c'est fabuleux. Et pourquoi on lit nos Bibles ? Ben, pour le connaître et pour vivre ça. Pourquoi on chante des chants qu'on appelle de louanges, hein ? Parce que ça fait partie des outils qui nous permettent de nous connecter à lui aussi. Pourquoi on parle entre nous, croyants ou non-croyants, ou on discute, pour stimuler notre réflexion, nos questions, pour vivre ces moments-là où, tout d'un coup, je sais que je suis, on l'est toujours, mais je suis bien conscient que je suis connecté à lui et je vis, hein, cette vie éternelle. Et donc, Dieu nous a donné la vie, il nous a donné le mouvement. Les êtres humains, dès qu'on vit quelque chose de beau, ce qui est super, ça arrive, hein, quel que soit le domaine, on veut le figer. On veut en faire... lorsque les disciples sont avec Jésus sur la montagne, et puis, c'est assez incroyable. Jésus discute avec des gens qui sont morts depuis des centaines d'années. Puis, cette montagne, elle est magique. Vite, ok, on va construire des tentes, puis après, on fera des maisons en dur. Puis on va essayer de bloquer ce moment-là, de le garder. Et puis, tout d'un coup, pouf, tout disparaît. Et puis, de redescendre avec Jésus. Et... on est comme ça, les humains. On veut essayer d'arrêter le temps sur les choses qui nous font plaisir, qui nous touchent. Alors oui, on doit apprendre à apprécier le présent, parce que c'est tout ce qu'on a. Et c'est pour ça que c'est tellement fort de vivre, parce que vivre, c'est de seconde après seconde. J'apprécie la seconde présente, au moment où je suis. Mais si je veux bloquer ça en pensant que je vais le perdre, c'est tellement beau, je dois le garder, alors je ne suis plus en mouvement. Et je me pétrifie. Je deviens minéral. Je ne vis plus. S'il n'y a pas le mouvement, la vie s'arrête. C'est pour ça que la vie, d'abord, et le mouvement, on est dans quelque chose où c'est vivant. Hein. La vie produit le mouvement. Tous les parents le savent. Bien sûr, les enfants dorment, encore quand ils dorment, ils bougent, mais un enfant qui est vivant, il bouge. Si des parents voyaient un enfant qui ne bouge plus pendant plusieurs heures, à part s'ils lui ont donné 4 comprimés de Valium, ils vont se poser des questions. Est-ce qu'il est encore vivant ? Tout ce qui est vivant bouge. Donc, le mouvement, je ne veux pas faire long, donc je ne vais pas le développer, mais je laisse ça comme une piste. Est-ce que je suis encore en mouvement dans ma vie ? Ou est-ce que, ça y est, je sais, Dieu, c'est là, et puis les gens, c'est ça, et puis ça, c'est ça, et puis je sais, c'est bien, maintenant j'ai fait des progrès, j'ai appris plein de choses, et puis je m'arrête de bouger. Oui, mais alors, je ne suis plus vivant, parce qu'il n'y a plus de mouvement. Donc en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et c'est intéressant, on parle souvent de ça, on essaie de le combattre, hein, nous sommes dans des sociétés où nous sommes définis par ce que nous faisons. Rencontre les gens... qu'est-ce que tu fais comme travail ? Tu habites où ? Quel est le prix de ta voiture ou de ta montre en Suisse ? Ce que nous faisons, ce que nous possédons, entre guillemets, on ne possède rien, mais ce que nous pensons posséder matériellement, ça définit les gens. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Hein, nous sommes appelés à être et après à faire. Ça n'est pas encore dans le processus, on n'en va pas jusqu'au bout. Hein, mais la vie, le mouvement, parce que quand on est vivant, il y a du mouvement. Et ça va définir ce que nous sommes, ce que je vis, et le mouvement de vie dans lequel je suis détermine qui je suis. Et ça, c'est le plus important parce que, je pense qu'on l'a tous expérimenté, il n'y a personne, des vieux, mais il n'y a pas de tout petits enfants ici en ce moment. Hein. Et la vie peut faire que tout d'un coup, sans prévenir, je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Paf, je me retrouve au lit, je ne peux plus travailler, ou je sais pas, il y a plein de circonstances qui font que je ne peux plus faire. Et quand je ne peux plus faire, on l'a vu très très fort dans les premiers moments de ce qu'on appelait le confinement, surtout qui était assez strict, hein. Ça a été énormément perturbant pour tout le monde, mais particulièrement pour les chrétiens qui ne pouvaient plus aller le dimanche matin dans un bâtiment spécial, qui ne pouvaient plus se retrouver pour répéter de la musique, qui ne pouvaient plus faire aucune des activités qu'on appelle activités chrétiennes. Et là, les gens se retrouvaient terrifiés devant, mais quand je ne peux plus rien faire, je suis qui ? Je suis encore chrétien ? C'est quoi être un chrétien, en fait, si je ne vais plus au culte, si je ne vais plus à la répétition, si je ne suis plus engagé là, si je ne fais plus ça, si je ne fais plus ça ? Si on était dans le bon processus que Dieu nous propose, je ne dis pas que c'est agréable de rien pouvoir faire. On n'a pas été créé pour ne rien faire. On peut toujours trouver d'autres choses à faire. Mais normalement, la vie amène le mouvement et le mouvement amène l'être. Et ce que je suis n'est pas atteint par ce qui se passe autour de moi. Ça peut me contrarier, ça peut me blesser, ça peut m'attrister. Attention, ce que je veux dire. Mais ça ne change pas qui je suis réellement. Et en fait, souvent pour nous, on découvre les choses à l'envers. C'est que le jour où une catastrophe, une maladie, un problème ou quoi que ce soit nous empêche d'être dans le faire et dans l'action, tout d'un coup, je découvre que je ne sais plus qui je suis. Et puis qu'en fait, je suis intérieurement immobile. J'ai perdu le contact avec mon âme, avec moi-même, avec ma vie intérieure, avec Dieu, parce que je ne suis plus connecté à la vie. Et alors, on va redécouvrir le processus à l'envers. Du fait que je ne peux plus faire, je me pose des questions sur qui je suis et je vais me mettre en mouvement pour retrouver la vie. Ça fonctionne. Donc, si on prend les choses à l'endroit, ça sera quand même plus simple. Et puis, bien sûr, si j'ai ces choses-là, alors après, il y a l'action. Et la Bible est très claire là-dessus aussi. Si je ne fais rien, en fait, c'est parce que il n'y a pas tout le processus. Je ne suis pas vivant et je ne suis pas en mouvement et je ne sais pas qui je suis, donc je ne fais rien. Voilà. Je suis effectivement un minéral ou un végétal. Mais le bon sens, c'est dans ce sens-là. La vie, le mouvement, l'être. Et puis, on va aller de l'avant avec ça. Alors, je crois que c'est une des choses qu'on a essayé de découvrir dans ce parcours, mais dans tous nos parcours de vie ensemble aussi, c'est ce qu'on veut apprendre. Et on veut continuer et une des raisons pour lesquelles on est ensemble ce matin, c'est pour s'encourager là-dedans. Et c'est pour ça que dans ce processus, les questions sont importantes. Ce n'est pas le fait que la question soit juste ou fausse, mais tout ce qui nous questionne nous met en mouvement et puis nous permet de nous apercevoir si nous sommes en vie ou pas. Ou si je suis en train d'essayer de construire une espèce de petit temple dans lequel je peux immobiliser un moment de ma vie alors que Dieu veut autre chose. Et on a besoin les uns des autres pour ça, pour s'en apercevoir, pour avancer, pour progresser. Alors, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, mais ça ne veut pas dire courir partout pour faire plein de choses. Ça veut dire savoir être connecté avec Dieu, un mouvement à l'intérieur. Et puis, ça nous amène à nous connecter aussi les uns aux autres. Et puis là, alors peut-être on va faire des choses, seul ou ensemble, à plusieurs, et aller de l'avant. Et voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce matin.